RFI, grand reportage, Patrick Adam.
Bonjour, c'est le supplément du dimanche. Bienvenue dans cette émission un peu différente. Ce matin, nous serons à la périphérie du conflit, avec ceux que la guerre a fait fuir. Camps de réfugiés, pays limitrophes, ils ont tout quitté au péril de leur vie et doivent s'imaginer un nouvel avenir. Cet homme est soudanais. Nous l'avons rencontré à Renk, au Soudan du Sud. Il fait partie de ce 1,5 million de Soudanais que la guerre a chassés au-delà des frontières quand, depuis un an, deux généraux s'affrontent pour le pouvoir. C'était le 15 avril 2023. La guerre éclatait au Soudan entre l'armée du général Al-Burhan et les forces de soutien rapide. En deuxième partie d'émission, nous serons avec les réfugiés en Égypte. Première étape, le Soudan du Sud. La vie en suspens des réfugiés de Renk. C'est un grand reportage de Gaël Lalex.
Donc ça, c'est la frontière avec le Soudan. This is the border with Sudan.
So we are here and there in Sudan. I hear there the one which you are seeing is Sudan. Welcome to Jordan.
Bienvenue à Joda. On va se garer là.
Donc ça, c'est la frontière avec le Soudan.
The other side is Sudan.
Oui, de l'autre côté, c'est le Soudan. Nous sommes ici et là-bas. C'est le Soudan.
Oh là là, I can't wait.
Vous êtes très contente d'être arrivée.
Oui, je suis excitée de tout vous montrer. Là-bas, c'est là qu'ils recensent les arrivées. Puis là-bas, on fait la recherche de vulnérabilité. Si les réfugiés sont âgés ou handicapés, alors on leur donne un jeton et ils rentrent là pour qu'on s'occupe d'eux.
Joda, sur la frontière avec le Soudan. Une guérite, quelques douaniers endormis et une corde marquent l'entrée sur le territoire du Soudan du Sud. Cette frontière a pourtant été bien disputée lors des années de guerre civile qui ont mené à la partition du Soudan en 2012. Aujourd'hui, à Joda, il y a du sable et des tentes du HCR, le bureau pour les réfugiés des Nations Unies. Près de 600 000 d'entre eux sont déjà passés par là pour fuir la guerre au Soudan.
My name is Awad Ogolchok. I'm just working here, receiving the returnees and refugees come from Sudan to North Sudan.
Je m'appelle Aouda Golcho, je travaille ici pour HEDC sous la tutelle du HCR. J'accueille les réfugiés et les retournés qui viennent du Soudan. Ce que nous faisons ici, ce sont de simples statistiques. Nous comptons ceux qui viennent du Soudan pour aller au Soudan du Sud et nous regardons s'ils sont réfugiés ou retournés.
Alors on a beaucoup de colonnes là sur cette fiche que vous montrez, vous pouvez m'expliquer à quoi elles correspondent ?
Ça, c'est le nombre des membres du foyer. Puis le chef du foyer, est-ce un homme ou une femme ? Ça, c'est le nombre d'enfants. Et là, leur nationalité. Cette colonne, c'est la raison de leur départ. La guerre, le manque de nourriture et toutes sortes de mauvaises situations.
Vous faites une différence entre les réfugiés et les retournés. Pourquoi ?
Les retournés, ce sont des Sud-Soudanais, alors que les réfugiés sont des Soudanais demandeurs d'asile au Soudan du Sud.
Et alors, ils viennent d'où, là, les derniers qui sont arrivés ?
Certains viennent de Khartoum, d'autres de Rabak et d'autres endroits encore.
Est-ce que beaucoup de monde arrive en ce moment ?
Il en arrive tous les jours. La plupart arrivent tôt le matin ou en soirée.
Quand ils arrivent, ils sont dans quel état, les réfugiés et les retournés ?
Ils arrivent dans un état de fatigue terrible, avec beaucoup de problèmes. Certains sont très maigres, d'autres blessés, d'autres encore sont malades.
Je m'appelle Leila Koul et je travaille pour le HCR. Ici, on cherche à savoir si les réfugiés sont atteints de choléra. S'ils le sont et que nous pouvons les traiter tout de suite, nous le faisons. Sinon, nous les envoyons à Médecins Sans Frontières. D'abord, on regarde les yeux, sont-ils rouges ? Puis les lèvres, sont-elles déshydratées ? Puis nous leur demandons combien de fois ils vont aux toilettes par jour. Si c'est fréquemment, nous analysons leur sel.
Et vous en avez beaucoup des cas de choléra ?
Oui, au début, on voyait beaucoup de cas de choléra, mais aujourd'hui, il y en a moins.
C'est à Rabak que Michael a d'abord trouvé refuge. Cet étudiant de 27 ans a mis près d'un an à atteindre le Soudan du Sud.
Je suis parti de Khartoum dès le mois d'avril de l'année dernière. Je suis d'abord allé m'installer à Rabak, puis je suis venu ici, à la frontière de Joda, au Soudan du Sud.
Pourquoi finalement vous avez décidé de quitter Rebek ?
Parce que les combats ont atteint Rabak, et puis il n'y a plus d'école à Rabak, il n'y a pas de travail non plus. J'ai donc décidé de partir pour ici.
Durant votre périple, avez-vous croisé l'armée soudanaise ou les FSR ?
Oui, on les a croisés. Ils nous ont arrêtés sur la route et nous ont empêchés de poursuivre notre chemin. Ils nous ont demandé de descendre de nos véhicules et de repartir d'où l'on venait. On leur a dit qu'on n'avait pas assez d'argent pour y retourner. On a réussi à les convaincre de nous laisser repartir. Et puis ils nous ont autorisés à rejoindre la frontière.
Et c'était où ça ?
Le premier checkpoint était à Rabak, quand ils nous ont demandé de faire marche arrière. Puis on les a aussi croisés à El Jebeline. C'était l'armée. Les militaires n'ont pas confiance en leurs propres citoyens. Ils redoutent qu'ils rejoignent les forces de soutien rapide.
Maintenant, c'est un soulagement pour vous d'être ici ?
Oui, c'est un soulagement. J'ai le sentiment d'être à la maison maintenant.
Michael, comme tous les arrivés du jour, ne restera que quelques heures à Joda. Après leur enregistrement et les premiers soins, réfugiés et retournés sont emmenés au centre de transit de Renk, 60 km plus au sud. La route se fait en car ou en camion. C'est une immense ligne droite qui longe le Nil blanc en plein désert.
Jusqu'à maintenant, nous avons plus de 600 000 réfugiés et retournés arrivés du Soudan au Soudan du Sud. Le plus gros pourcentage arrive par la frontière de Joda et la ville de Renk.
Sylva Al-Kebe est la coordinatrice des agences des Nations Unies à Renk.
La plupart sont des Sud-Soudanais qui rentrent chez eux, bien que ces derniers mois, depuis décembre dernier, on observe une augmentation du nombre de réfugiés. Aujourd'hui, environ 1500 réfugiés et retournés, en moyenne, arrivent par jour à la frontière.
Et ensuite, une fois que ces réfugiés et ces retournés arrivent à Renk, qu'est-ce qui se passe ?
Au début, les deux reçoivent de l'aide humanitaire d'urgence de différentes ONG partenaires. Mais comme ici, ce n'est qu'un centre de transit, cette aide humanitaire ne couvre les besoins que de quelques jours seulement. Après cela, les réfugiés doivent être relocalisés à Maban, l'un des camps de réfugiés existants.
Est-ce que les réfugiés souhaitent aller à Maban ?
En général, non. Les réfugiés ne veulent pas aller à Maban pour différentes raisons. La plupart veulent rester à proximité du Soudan. Ils espèrent que la paix reviendra bientôt et qu'ils pourront repartir. Certains espèrent encore retrouver des membres de leur famille. Une grande partie de ces réfugiés viennent de centres urbains comme Khartoum. Ils sont éduqués, donc s'installer dans un camp de réfugiés est dur à envisager pour eux. C'est un vrai défi pour ces réfugiés d'aller à Maban.
Comment vous faites pour les convaincre ?
On essaie de leur expliquer qu'ils recevront plus d'aide à Maban. Renk n'est qu'un centre de transit avec une assistance humanitaire très limitée. On ne leur fournit de la nourriture que pour quelques jours. Le système de santé est limité, il n'y a pas d'école. Alors qu'à Maban, il y a un système d'éducation pour le primaire et le secondaire. Ils recevront de l'argent liquide tous les mois pour de la nourriture et bénéficieront d'infrastructures de santé. Aussi, les réfugiés qui y arrivent par leurs propres moyens sont libres d'aller où ils veulent.
They are free to go wherever they want.
Aujourd'hui, le centre de transit de Renk accueille 5 fois plus de réfugiés et retournés que sa capacité initiale. Il y a donc urgence à déplacer ces populations, d'autant que la saison des pluies approche. Mais un dialogue de sourds s'est instauré entre les humanitaires et les réfugiés. Abdourahman Amsalé est un des leaders communautaires du centre.
Ici, nous avons retrouvé la paix que nous avons perdue. Nous avons la sécurité et une protection. Mais nous avons encore besoin de beaucoup de choses.
Vous pouvez nous dire, justement, ces besoins, quels sont-ils ?
Nous avons besoin de savoir si nous pouvons rester ici ou s'ils vont nous emmener dans un autre camp. Ils disent que nous devons aller à Mabane. Si nous pouvions rester ici, il nous faut l'éducation pour les enfants, la santé, les choses basiques comme la nourriture. Nous avons besoin de rester près de chez nous. Si la paix revient, nous devons pouvoir repartir.
La plupart des gens n'ont pas envie d'aller à Mabane. Pourquoi ?
Oui, ils refusent d'y aller. Les départs pour Mabane ont démarré en novembre. Et ceux qui y sont allés sont très vite revenus. Ils ont expliqué que ce n'était pas un bon endroit. Il n'y a pas de sécurité, pas de nourriture, pas de médicaments, pas d'éducation. Et ces informations ont fait leur chemin dans nos esprits. Les ONG essaient de convaincre les réfugiés de partir, mais ils refusent. Aujourd'hui encore, le dialogue est difficile entre les organisations et les réfugiés. Ici, il n'y a rien et ils ne nous donnent rien. Nous sommes prêts à repartir dans notre pays. Même s'il y a la guerre, ça ne peut pas être pire que Mabane.
Je m'appelle Inshira Aiza, j'ai 24 ans et je viens de Khartoum. Mon père est ingénieur et ma mère avait sa propre entreprise de parfums. Moi, j'étudiais la protection animale à l'université de Khartoum.
Comment est-ce que vous imaginez votre futur aujourd'hui ?
Sombre. Ici, il est très difficile de s'adapter à l'environnement, de trouver un travail. C'est un camp, et un camp, ce n'est pas la maison. Cet endroit n'est pas bon pour l'accès aux soins, pour les personnes âgées. Mon frère est un adolescent et sans éducation, il a déjà oublié beaucoup de ce qu'il a appris.
Est-ce qu'on vous a proposé d'aller à Mabane ?
Je ne pense pas aller à Mabane. Mon cousin y est allé, il en est revenu et nous a dit que la situation là-bas était très dure.
Qu'est-ce que vous redoutez à Mabane ?
Mabane, à mes yeux, semble être une prison. Si vous venez de la ville et que vous allez dans un camp qui se trouve perdu dans la campagne, loin de tout, c'est dur de vous y installer. Vous ne pouvez pas vous adapter. C'est loin de tous vos besoins, votre hôpital, votre éducation, votre emploi, votre vie quotidienne. Les urbains sont culturellement très différents des villageois.
Vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui vous attend là-bas.
Bien sûr, il n'y a rien qui me donne envie de penser à Mabane. Là-bas, il n'y a pas d'université, ça s'arrête au collège. Et dans ma famille, nous sommes quatre à étudier à l'université.
Tout autre est le sort réservé aux retournés, ces Sud-Soudanais qui vivaient au Soudan. Le Soudan du Sud est le plus jeune pays au monde. Son histoire est marquée par la guerre, d'abord celle de l'indépendance acquise en 2012, puis une guerre civile de 2013 à 2020. Certains de ces retournés ont déjà fui à plusieurs reprises des conflits, d'autres sont nés de l'autre côté de la frontière et n'ont jamais mis un pied au Soudan du Sud.
Là, je suis en train de faire la queue. J'attends mon tour pour pouvoir partir au port fluvial. Je n'ai que ce sac avec moi. À l'intérieur, il n'y a que des vêtements. C'est tout ce que j'ai pu sauver. La situation là-bas est vraiment terrible.
Là-bas, c'est Khartoum, la capitale soudanaise où Tidjani Saleh, étudiant de 20 ans, est né. Considéré comme un retourné, il est éligible au programme de rapatriement décidé par les autorités sud-soudanaises et soutenu par l'Organisation internationale des migrations. Tidjani n'a connu que Khartoum et s'apprête à partir pour Waou, dans l'ouest du Soudan du Sud.
En partant, on a tout laissé derrière nous. Notre maison, nos biens et même certains membres de notre famille. D'autres nous attendent là-bas, à Waou.
Quels sont vos projets là-bas ?
Je vais essayer de reprendre mes études. Je voudrais étudier l'anglais maintenant, car à Khartoum, j'ai déjà appris l'arabe.
Est-ce que vous envisagez, si la paix revient, de retourner au Soudan ?
Oui, je retournerai au Soudan, mais seulement pour rendre visite aux membres de ma famille qui sont restés là-bas.
Je m'appelle Isaac Fogan, je travaille pour l'OIM. Je coordonne les opérations de rapatriement des retournés venus du Soudan. Ici, nous sommes au port fluvial, sur les berges du Nil Blanc, d'où nous transportons les retournés par bateau vers Malakal. Nous les emmenons du centre de transit au port par bus pour les plus vulnérables et par camion avec leurs bagages pour les valides. Une fois au port, nous leur donnons des bons qui font office de tickets de transport. Ils montent sur les bateaux et nous les emmenons à Malakal.
Et après Malakal, qu'est-ce qui se passe ?
Depuis Malakal, les gens sont ensuite envoyés vers leur destination finale par avion ou encore par bateau.
Ce système de rapatriement, est-ce que c'est une volonté des autorités sud-soudanaises ?
Oui, c'est ce qu'elles voulaient, car elles ne veulent pas qu'il y ait plus de camps de réfugiés. La décision se fait sur la base du volontariat. Chaque sud-soudanais est libre d'aller où il veut, là où il sera le plus à l'aise.
Est-ce que les retournés sont assez volontaires pour participer à ce programme ?
En vérité, tout le monde n'est pas disposé à partir pour différentes raisons. Certains préfèrent rester à Renk pour suivre ce qui se passe. Si la situation venait à se calmer, ils essaieraient de retourner au Soudan. Mais la plupart sont disposés à partir. Les gens arrivent en nombre.
Certaines personnes ont passé plus de temps au Soudan qu'au Soudan du Sud. Leur nationalité, elle n'est quasiment que sur le papier. Où vont ces personnes-là ?
Par exemple, durant leur enregistrement, ils ont l'occasion de s'expliquer. Ils peuvent nous indiquer d'où ils viennent et où ils souhaiteraient aller. Ils sont enregistrés en fonction de leur état ou de leur localité d'origine. Au Soudan du Sud, un Sud-Soudanais est libre d'aller où il veut. Et l'OIM est mandaté pour les emmener jusqu'à leur destination finale.
Je m'appelle Shana Wejok, j'ai 33 ans et je viens d'Omdurman vers Khartoum. Je me rends à Jouba et là aujourd'hui je pars pour Malakal.
Pourquoi est-ce que vous allez à Jouba ?
Nous sommes habitués à vivre en ville. C'est pour l'éducation des enfants que nous avons décidé d'aller à Jouba, pour pouvoir leur permettre de reprendre l'école.
Et là-bas, est-ce que vous avez de la famille qui vous attend ? Vous savez où vous allez dormir, vivre ?
Non, je n'ai pas de domicile là-bas, mais j'ai des proches qui pourront m'accueillir. Et puis après quelques temps, je chercherai du travail. Je ne peux pas rester assise sans rien faire.
Comment vous imaginez votre avenir et surtout, où est-ce que vous l'imaginez ?
Je nous imagine à Jouba. J'ai des enfants qui sont encore petits. Il faut qu'ils aillent à l'école, donc ce sera Jouba. Il faudra que je trouve rapidement un travail. La vie en ville est très chère. Il faut beaucoup d'argent. Je me moque du type d'emploi que je trouverai. Je suis prête à faire n'importe quoi.
À Khartoum, vous aviez un emploi ?
À Khartoum, j'étais femme de ménage. Il n'y avait rien d'autre que je pouvais faire car j'étais déjà réfugiée là-bas. J'ai fui la guerre civile ici.
Le Soudan, c'est terminé pour vous ?
Ce qu'on a vécu à Khartoum, ça n'a pas été facile. Ça n'était pas anodin. On espère que la situation va s'améliorer là-bas. Je ne pense pas vraiment y retourner, mais qui sait ce qui nous attend ?
Assis sur une natte, Abdourahman Amsalé regarde le camion des retournés partir. Le leader communautaire n'a pas l'intention de quitter Renk malgré l'incertitude du retour.
Quand la guerre démarre, personne ne sait quand elle finira, mais nous espérons que ce sera au plus vite.
Qu'est-ce que vous pensez des deux généraux qui se combattent ?
Les deux ont tort, ce sont les responsables de cette guerre. Ils devront en répondre. Ils tuent, ils détruisent, ils volent. Toutes les choses terribles qui arrivent au Soudan sont de leur fait. C'est mal. La direction qu'ils prennent est la mauvaise. Vous tuez votre nation, vous tuez votre peuple. Comment pouvez-vous imaginer gouverner le Soudan ? Ce n'est pas comme ça que ça marche.
Come back and see that you want to control Sudan. The strong way.
Je
Bonjour Gaëlle Lalex.
Bonjour.
Envoyée spéciale permanente de RFI à Nairobi. Vous étiez donc en reportage à Renk, à environ 60 km de la frontière avec le Soudan. À entendre votre reportage, Renk, ça semble vraiment être le bout du monde. Comment est-ce que vous avez pu vous y rendre ?
Eh bien oui, vous avez raison Patrick, Renk, ça peut paraître le bout du monde. Il faut prendre plusieurs avions pour y aller, en passant notamment par Malakal, autre ville sud-soudanaise plus au sud. Moi, personnellement, j'ai volé avec les avions des Nations Unies, car c'est le HCR qui m'a accueilli. Il faut savoir, hein, Patrick, qu'à Renk, il n'y a rien. Hein, pas un hôtel, pas une chambre à louer. Donc pour avoir un lieu où dormir et suffisamment d'électricité pour travailler, bien j'ai été hébergée par le HCR dans leurs locaux, où les membres de l'équipe vivent et travaille 7 jours sur 7.
Mais est-ce que ça veut dire, Gaëlle, que sans les Nations Unies, vous n'auriez pas eu le droit d'entrer dans les centres de transit ?
Alors si, en réalité, les centres et camps mis en place pour les réfugiés et les retournés sont parfaitement libres d'accès, les autorités sud-soudanaises sont très libérales avec les réfugiés. Ils sont libres de se déplacer dans tout le pays du moment qu'ils y arrivent par leurs propres moyens. J'en ai d'ailleurs croisé, moi, à la sortie de l'aéroport de Djouba, la capitale, le jour de mon arrivée. Elles sont, en revanche, les autorités beaucoup moins libérales avec les journalistes. Il m'a fallu demander un nombre incalculable d'autorisations auprès du pouvoir central à Djouba, puis des autorités locales à Renk pour pouvoir travailler. Et encore, je n'ai presque pas pu tourner en dehors des infrastructures du HCR, ou alors je l'ai fait sous le manteau.
Alors à entendre à votre micro les Soudanais qui arrivent à Renk, on a presque le sentiment que pour eux cela représente une forme d'Eldorado. Bon, véritablement Gaëlle, Renk, à quoi ça ressemble ?
À une ville ravagée par des décennies de guerre. Je vous disais tout à l'heure qu'il n'y a pas grand-chose à Renk. Ce n'est pas tout à fait vrai. J'aurais dû préciser grand-chose qui tienne encore debout. En réalité, Renk, c'est une ville importante quand même. Frontalière, elle est installée sur les berges du Nil Blanc. On y fait beaucoup de commerce, il y a une université. Mais durant la guerre d'indépendance et ensuite la guerre civile qui a suivi l'indépendance, donc Renk a été tout à fait ravagée. Évidemment, une ville frontalière, elle était au cœur des combats. Donc aujourd'hui, beaucoup de bâtiments sont à terre et ceux qui restent portent clairement les stigmates des années de conflit.
On l'a très bien entendu dans le grand reportage, les habitants de Renk accueillent les réfugiés et les retournés. Est-ce qu'il y a parmi eux des réticences ou cet accueil finalement se fait assez naturellement ?
Non, pas de réticence, non, pas du tout. Au contraire, ça se passe assez bien. Il n'y a pas de problème de sécurité, par exemple. On ne m'a pas non plus fait part de tensions communautaires. Non pas que tout soit rose, évidemment, à Renk, mais quand même, il y a une cohabitation qui fonctionne bien. Vous savez, Patrick, j'ai croisé beaucoup de retournés, notamment, qui avaient déjà connu cette situation plusieurs fois dans leur vie. Ils ont fait des allers-retours entre le Soudan et le Soudan du Sud, brinque-ballés par les conflits. Beaucoup d'habitants de Renk aussi ont fui la guerre civile entre 2013 et 2020 de l'autre côté de la frontière. Donc bien qu'aujourd'hui, il y ait deux États différents, leurs populations sont quand même intimement liées. Et je crois que ça joue beaucoup dans les solidarités qui sont mises en place.
Gaëlle, question un peu traditionnelle pour les habitués de ce supplément au grand reportage, enfin d'entretien avec les journalistes. Quel sentiment est-ce que vous gardez de ce reportage à Renk ?
Celui du dépit, évidemment, parce qu'en prenant la mesure de la crise des réfugiés, vous prenez aussi celle du désastre de ce conflit. Ce qui m'a frappé, sans doute, c'est que la plupart des réfugiés rencontrés étaient des classes moyennes éduquées, des instituteurs, des médecins, des ingénieurs, des directeurs d'école, dont la requête prioritaire n'était pas la nourriture, l'argent, mais l'école pour leurs enfants. Alors je dis pas ça, évidemment, parce que les classes moyennes souffriraient plus des guerres que les autres, mais ce que ça raconte en négatif, c'est que le Soudan, malgré 30 années de dictature, des dizaines d'années de sanctions internationales, une révolution, des coups d'État, le Soudan, quand même, a réussi à se développer, à éduquer sa population, à constituer une véritable classe moyenne. Et c'est tout ça, aujourd'hui, qui est en train de s'effondrer. Et la résilience de la population soudanaise, c'est quelque chose d'absolument remarquable à cet égard.
Est-ce que parmi tous les réfugiés que vous avez rencontrés, il y en a un qui vous a particulièrement marqué ?
Oui, bien sûr, même si tous ont des histoires absolument bouleversantes, il y a un petit garçon d'une dizaine d'années qui m'a vraiment touchée. Il s'appelle Goy. Il ne figure pas dans mon grand reportage car j'ai utilisé son témoignage sur notre antenne dans un autre cadre. Goy vivait au Kenya avec sa tante depuis des années. Son père l'y avait envoyé pour qu'il ait une meilleure éducation. Il est retourné voir ses parents à Khartoum début avril 2023. Et trois jours après son arrivée, la guerre a éclaté. Aujourd'hui, Goy a tout perdu. Ses parents sont morts dans un bombardement. Il a fui avec une autre tante et est coincé à Renk. Il parle anglais, arabe, swahili. Et aujourd'hui, la seule chose qu'il demande, c'est de pouvoir retourner à l'école, peu importe où, pour devenir ingénieur.
Merci, Gaëlle Lalex. Depuis un an, l'ONU évoque 8,5 millions de personnes déplacées. Ceux qui ont traversé les frontières sont partis au Tchad, en Éthiopie, en Égypte aussi, installés au Caire et alentour notamment. Difficile d'avoir des chiffres précis, le quotidien est précaire, l'espoir ténu. L'exil sans terre promise, c'est un grand reportage de Léonie Lebrun.
La nuit vient de tomber sur le village de Wadi Karkar, au cœur du désert égyptien, à l'ouest du lac Nasser.
Là, il y a 5 familles dans une seule maison, 5 familles. Chaque famille compte peut-être 5, 6, 7 personnes. Et on a beaucoup de situations comme ça.
Il y a beaucoup de maisons comme ça ?
Oui, beaucoup, particulièrement depuis janvier, février, mars. Toutes les familles sont arrivées illégalement et souvent sans les hommes.
Alaa travaille auprès des familles logées dans ce complexe immobilier construit par l'armée égyptienne, d'abord destiné aux familles nubiennes, dépossédées de leurs terres après la construction du barrage d'Assouan et la montée des eaux du Nil. Le village accueille désormais des centaines de familles soudanaises. Dans une rue déserte, la porte d'une petite maison s'ouvre. Kauter nous accueille chez elle. 11 membres de cette famille ont fui Khartoum, 7 adultes avec 2 enfants et 2 bébés.
D'abord, dites-moi quelle est votre situation en Égypte. Vous me dites que vous vous sentez en sécurité, que vous voulez rester ici.
Maintenant, je peux vivre ici avec mes fenêtres grandes ouvertes. Grâce à Dieu, ici, nous sommes en sécurité. Je n'ai plus la peur des balles ou la crainte que mes enfants soient blessés. Nous sommes en sécurité de jour comme de nuit, grâce à Dieu.
Les pièces sont quasi vides, de grands espaces aux murs jaunes dépourvus de tout mobilier, un espace cuisine où les ustensiles sont posés à même le sol et quelques couvertures étendues sur le carrelage font office de lit.
De quoi avez-vous le plus besoin finalement ?
Nous avons besoin de beaucoup de choses. De nourriture, car nous ne voulons plus aller en réclamer aux autres maisons. Un réfrigérateur et des lits. Monsieur a dit qu'il nous installerait 5 lits. Je tiens à le remercier.
Kauter lève les yeux vers un des gestionnaires du village qui travaille en étroite relation avec le ministère égyptien de l'éducation.
Je suis Ahmed Abdelhamid, principal du lycée ici et directeur de la fondation Développement de la communauté de Wadi Karkar depuis maintenant 2 ans.
Et qu'est-ce que vous avez constaté depuis un an et le début de la guerre ?
Dans les premières semaines, la première vague de Soudanais voulait voyager directement d'Assouan vers le Caire ou d'autres pays. La plupart d'entre eux avaient une double nationalité, suisse, américaine, canadienne, britannique, et tous avaient une situation financière confortable. Puis, les vagues qui ont suivi, c'était les classes moyennes, et enfin plus tard, les gens qui n'ont rien. C'était un grand problème, car les ressources de la fondation étaient au plus bas.
Mais il vous manque de quoi meubler les maisons.
Nous avons pu meubler 10-12 maisons pour assurer un logement correct aux Soudanais qui sont arrivés là. mais leur nombre a augmenté. Des gens nous ont aidés, ont apporté de la nourriture, des pommes de terre, du matériel de cuisine, des gazinières, et on a pu améliorer comme ça la situation des réfugiés.
Et combien de Soudanais sont logés ici désormais ?
Après un an, le village héberge entre 400 et 500 familles soudanaises, ce qui est l'équivalent du nombre de Nubiens qui vivent ici, si ce n'est plus. Récemment, énormément de Soudanais ont traversé la frontière égyptienne illégalement. Et c'est un nouveau poids d'avoir ces nouvelles familles au village, avec nos ressources qui sont limitées pour aider.
Kauter et sa famille sont exactement dans cette situation. Illégaux sur le sol égyptien, le gouvernement tolère leur présence dans l'unique périmètre de Wadi Karkar, mais tous craignent d'être déportés vers le Soudan.
Il y a une tolérance du gouvernement, oui, mais depuis que nous sommes ici, nous n'autorisons pas nos enfants à quitter le village pour aller en ville. Nous avons peur, nous devons rester très vigilants jusqu'à ce qu'on légalise notre statut en Égypte. Mais nous travaillons pour avoir notre carte du Haut Commissariat aux réfugiés, pour légaliser notre statut de résidence. Ce serait plus sûr. Les procédures sont en passe d'être terminées. Cela nous donnera la liberté de mobilité ailleurs, en Égypte. Et nous aimerions aussi que nos enfants retournent à l'école. Nous sommes venus ici pour leur avenir, après avoir perdu l'espoir au Soudan.
Dans une maison voisine, une autre famille. Là aussi, les petits dorment sur des couvertures à même le sol. Maysoun, leur mère, a pu entrer en Égypte légalement avec un visa tourisme.
D'abord, pouvez-vous vous présenter et me dire avec qui vous êtes venu ici et depuis quand ?
Je m'appelle Maysoun Mohamed. Je suis arrivée le 22 janvier 2024, moi avec mes enfants, ma mère et mon mari.
Combien d'enfants ?
4. Fatma, 9 ans. Isra, 7 ans. Mohamed, 4 ans et demi. Et Razan, 18 mois.
Et vous êtes originaire ?
Soudan ? Nous sommes de Khartoum Nord.
Malgré son diplôme et son expérience de statisticienne, elle doit encore compter sur la solidarité des habitants du village. Il n'y a pas d'opportunité d'emploi.
Le premier problème, c'est qu'il n'y a pas d'opportunité ici au village. Si vous voulez trouver, il faut aller voir en ville, à Assouan. Et je cherche un travail car la maison a besoin de meubles. Et bien sûr, il y aura l'an prochain les frais de scolarité des enfants.
Départ de Wadi Karkar, précaire îlot de sécurité pour les Soudanais arrivés au sud de l'Égypte. Direction Assouan, à 30 km au nord, première grande ville depuis la frontière, avant de regagner le Caire, la tumultueuse et gigantesque capitale égyptienne. Le métro nous mène jusqu'au quartier d'Ain Shams, où vit une importante communauté soudanaise. Dernière étape, en tuk-tuk, pour se faufiler dans les ruelles du quartier, accompagné de notre fixeur, lui-même soudanais, réfugié au Caire depuis 7 ans.
Est-ce que tu peux me dire où on est là exactement ?
Nous sommes maintenant à Zahra Ain Shams.
D'accord.
Zahra Ain Shams, c'est un quartier annexé au quartier de Ain Shams.
Et si tu devais me décrire un petit peu le quartier, c'est là que vit une communauté soudanaise très importante, c'est ça ?
Oui, exactement. La communauté soudanaise vit ici. Généralement, c'est la zone la plus populaire.
D'accord.
Après l'éclatement de la guerre, il y a pas mal quantité de Soudanais qui sont venus à Zahra Ain Shams. Ils sont hébergés chez leurs proches.
Et comment toi, tu décrirais les conditions de vie des Soudanais qui sont dans ce quartier annexe d'Ain Shams, Zahra Ain Shams ?
Les conditions de vie sont très terribles ici parce que les appartements sont très étroits, mais même si pour d'autres moyens de vivre, subsister, c'est très difficile parce que la majorité de ces gens hébergés ne travaillent pas, ils n'ont pas un travail.
Ils ne travaillent pas, ils n'ont pas non plus de statut administratif à jour.
Ce n'est pas clair. Donc c'est très difficile pour eux, mais ils ne peuvent pas bouger librement.
C'est là ?
Une famille de 8 réfugiés soudanais s'est installée dans le quartier à l'été 2023, dans l'appartement qui dispose de seulement 2 chambres, 2 enfants en bas âge courent d'une pièce à l'autre. Marwan Hassan, 35 ans, est originaire de Khartoum. Ses souvenirs du conflit dans la capitale soudanaise sont encore vifs.
La guerre est soudainement arrivée, personne ne s'y attendait. Tous les citoyens soudanais étaient surpris car personne n'imaginait que la guerre toucherait la capitale soudanaise. Le jour où la guerre a éclaté, c'était tragique. Les bombes tombaient partout. Beaucoup de jeunes ont perdu la vie. Nous avons perdu des amis qui habitaient le quartier avec nous. C'était une grande perte pour nous.
Vous êtes resté quelques mois à Khartoum dans l'espoir que la guerre s'arrête et puis vous avez dû fuir.
Oui, le 2 août 2023, je suis entré en Égypte.
Et c'est vous qui assurez aujourd'hui le soutien financier à l'ensemble de la famille.
Je travaille comme professeur d'anglais. J'enseigne hors d'Ain Shams, c'est très éloigné d'ici. Personne ne travaille à part moi. Ma mère et ma sœur ne travaillent pas. C'est très difficile pour elles de trouver un poste. Ce n'est pas comme dans notre pays. Chez nous, nous travaillons tous. En Égypte, en tant que réfugiés, ce n'est pas évident du tout. Nous sommes 8 personnes dans cet appartement, sans compter les enfants. Le loyer varie entre 2500 et 3000 livres égyptiennes. Ça, le gaz et l'électricité.
Il n'y a pas d'aide du gouvernement.
Nous n'avons aucune aide.
Sa mère, Aziza, 74 ans.
Nous avons fui. Le futur pour nous, c'est la fin de la guerre. Le futur, c'est l'amélioration de la situation dans le pays afin que nous puissions enfin rentrer chez nous. L'avenir en Égypte, il n'y en a pas. On a juste de quoi manger, boire, payer le loyer. Grâce à Dieu, nous habitons un petit logement à 8, 9 ou 10 personnes dans un appartement. Et nous avons de quoi manger et boire.
Dans la cuisine, 3 jeunes femmes préparent le repas de l'iftar, repas de la rupture du jeûne pendant le ramadan.
Vous préparez l'iftar ?
Oui, c'est pour l'iftar.
Vous préparez quoi, du riz ?
Non, c'est un plat soudanais qui s'appelle Asida.
Ah, ça sent bon.
Alors, on coupe les oignons, la viande, les tomates, les okras. On mélange. Allez, reste, mange avec nous.
Et là, c'est la salle de bain, vous avez l'eau tout le temps ?
Non, il y a des problèmes avec l'eau.
Il n'y a pas de douche, hein, c'est ça ?
Non, juste une bassine.
Goufran, jeune maman de 27 ans, s'extrait de la cuisine quelques instants.
J'ai un rendez-vous pour m'inscrire auprès du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés. C'est le 22 mai. C'est très loin, ce rendez-vous.
Comment vous décririez la vie à Ain Shams ?
Concernant la vie à Ain Shams, je ne sors pas beaucoup. Je suis toujours à la maison, car je n'ai aucun document officiel qui justifie mon séjour au Caire. Je suis arrivée illégalement, alors je reste chez moi, je descends juste au marché. J'ai peur sinon d'être arrêtée et déportée jusqu'à Wadi Halfa.
Halfa. Ok. Wafi, est-ce que vous avez des difficultés avec certains Égyptiens, du racisme par exemple ?
Les problèmes auxquels nous sommes confrontés, ce sont le racisme et la moquerie. On nous dit « Ya Samara, oh la noire ». Mais pour l'instant, ça ne va pas plus loin.
Le racisme puise aussi ses racines dans la situation économique catastrophique de l'Égypte. Une partie de la population accepte difficilement l'arrivée des nouveaux demandeurs d'emploi, comme nous l'explique Marwan.
Ils nous disent, vous avez saturé le pays, vous créez une saturation. Ils pensent que l'arrivée des Soudanais est une mauvaise chose. Ils ne sont pas conscients. L'arrivée des Soudanais, c'est une bonne chose, car les Soudanais dépensent de l'argent ici, font vivre l'économie. Ce n'est pas ça qui impacte l'économie égyptienne. Si l'économie égyptienne est impactée, ils doivent chercher d'autres causes.
Retour au cœur de la ville, dans un immeuble qui surplombe le Nil. Le bâtiment, appelé ici World Trade Center, abrite une partie des bureaux du Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. Christine Bécha est responsable des relations extérieures du Haut Commissariat.
Le HCR gère les demandes d'asile au nom du gouvernement égyptien depuis 1954. Donc, quiconque se rend dans nos bureaux obtient un rendez-vous. Ils présentent leurs documents et peuvent s'enregistrer comme demandeurs d'asile. Une fois ce document obtenu, ils peuvent obtenir un permis de résidence de 6 mois renouvelé et délivré par les autorités de l'immigration.
Combien de personnes ont obtenu le statut de demandeur d'asile depuis un an ?
Depuis le 15 avril 2023, le nombre de Soudanais réfugiés enregistrés auprès du HCR a augmenté de 61 000 à près de 300 000 personnes. Donc on parle de 240 000 personnes enregistrées en un an.
Plus de 200 000 Soudanais seraient quant à eux sur le sol égyptien sans avoir encore obtenu le statut de réfugié. Ils pointent un système d'enregistrement lent, saturé, complexe et qui présente peu d'avantages. Aucune aide du gouvernement. La solidarité intracommunautaire est alors le seul salut dans une Égypte affaiblie et autoritaire.
Je me demande pourquoi ils font tout cela au Soudan. Les gens étaient heureux, avaient de la nourriture, avaient tout. Pourquoi est-ce que cela arrive ? Ils nous ont forcés à fuir nos maisons, nos foyers. C'est monstrueux. Mais nous ne pouvons que remercier Dieu, car c'est sa volonté et nous devons avoir foi en lui pour avoir un meilleur avenir.
Les Soudanais réfugiés en Égypte, l'exil sans terre promise. Léonie Lebrun, bonjour.
Bonjour Patrick.
C'est vous qui signez ce grand reportage. Vous l'avez débuté à Wadi Karkar, un village construit au sud d'Assouan et auquel, en principe, l'accès est très contrôlé.
Oui, c'est un quartier résidentiel qui est complètement isolé, hein, au milieu du désert égyptien, dans le sud du pays. Nous nous y sommes rendus depuis la ville d'Assouan. Il faut compter une demi-heure, trois quarts d'heure de route. C'est un parcours qui comporte des checkpoints, des points de contrôle de l'armée égyptienne. Et j'y suis allée avec un fixeur qui est journaliste et activiste égyptien basé à Assouan. Il a donc une fine connaissance du terrain et des problématiques d'autorisation d'accès. En fait, il a convaincu un des gestionnaires du village de Wadi Karkar de nous y accompagner. Je n'ai donc pas eu à demander d'autorisation spécifique aux autorités pour passer les points de contrôle. Et c'est cet accompagnateur qui était à la fois la clé qui nous a permis d'accéder au village et un œil qui surveille quand même ce que l'on y fait.
Alors j'insiste un petit peu, Léonie, ce village de Wadi Karkar, on sait que des centaines de familles soudanaises y sont hébergées. Néanmoins, la presse, ces derniers mois, n'y avait pas accès.
Effectivement, des journalistes se sont rendus à Wadi Karkar lorsque la guerre a éclaté au Soudan il y a un an. C'était l'un des principaux points d'arrivée des réfugiés de guerre. Puis les autorités ont progressivement restreint l'accès au village quand l'afflux de journalistes devenait important. Et finalement, ces derniers mois, eh bien la guerre à Gaza a cristallisé la tension médiatique et a eu un impact sur l'intérêt porté à la crise soudanaise qui est devenue moindre.
Alors justement, pourquoi est-ce que désormais les autorités acceptent de vous laisser accéder à ce village et d'y travailler ?
Eh bien parce que le gouvernement égyptien veut soigner à tout prix son image de pays accueillant pour les réfugiés des pays voisins. Je rappelle que l'Égypte est cernée par les crises et les conflits, à Gaza bien sûr, au Yémen, en Libye et donc au Soudan. Lorsque vous évoquez le sujet avec les sources officielles, elles vont sans arrêt vous reprendre sur des points sémantiques qui en disent long. On ne les appelle pas réfugiés, mais invités, c'est ce que martèle sans cesse le gouvernement. Il y a donc sans doute une volonté de prouver que malgré une situation économique catastrophique en Égypte, malgré les séjours irréguliers de nombreux Soudanais sur le sol égyptien, eh bien, le pays est tolérant, accueillant. C'est ce qu'on a pu voir dans le village de Wadi Karkar, des familles qui n'ont a priori pas le droit de rester en Égypte, mais qui ne sont pas expulsées et ont au moins un toit sur la tête pour un loyer particulièrement bas à cet endroit précisément.
Oui, mais il n'empêche, il y a comme un décalage entre ce que l'État égyptien veut bien montrer et la réalité que vous avez rencontrée.
Absolument. Les expulsions vers le Soudan sont régulières. Les Soudanais arrivés en Égypte vivent avec la peur au ventre, cette peur d'être arrêtés arbitrairement, déportés. On l'entend dans le reportage, nombreux sont ceux qui ne quittent pas leur domicile pour éviter toute prise de risque. Autre point qui explique la liberté que l'on a eue de travailler à Wadi Karkar avec la communauté soudanaise, je l'évoquais un peu plus tôt, la guerre à Gaza cristallise toute la tension et une grande partie des fonds internationaux sont dédiés à l'aide humanitaire aux Palestiniens. Et donc, l'espoir des équipes éducatives et sociales qui travaillent à Wadi Karkar, eh bien, c'est une redistribution des aides bloquées aux portes de Gaza dans le Sinaï égyptien, au profit des familles soudanaises qui ne bénéficient pas de cette aide.
Léonie Lebrun, on l'a bien compris à l'écoute de votre reportage, cette communauté soudanaise, elle se trouve dans une situation très précaire, avec pour beaucoup d'entre eux des situations irrégulières. Est-ce qu'il a été difficile de recueillir leurs paroles ?
Alors pour les sujets liés aux réfugiés soudanais, je travaille exclusivement avec des fixeurs. Ce sont ces personnes relais extrêmement précieuses qui vont établir le contact avec nos interlocuteurs. Et cela nous permet d'entrer dans les foyers et de prendre le temps de l'entretien. De nombreuses personnes interviewées ont tout de même précisé qu'elles souhaitaient demeurer anonymes, ont indiqué qu'elles ne voulaient pas apparaître en photo, notamment sur un média, de peur des représailles des autorités lorsqu'elles critiquent par exemple l'absence d'aide du gouvernement égyptien. Et j'insiste vraiment sur cette peur réelle d'une arrestation, de possibles mauvais traitements ou d'une déportation vers le Soudan. De nombreuses organisations de défense des droits de l'homme ont ainsi documenté des centaines de cas d'arrestations arbitraires. La crainte aussi, c'est d'attiser le racisme qui existe à l'encontre de la communauté soudanaise. Une partie de la population égyptienne ne veut pas voir arriver les réfugiés dans le pays, alors que la situation économique ici est critique. Certains Égyptiens accusent les Soudanais d'être responsables de la flambée des prix des loyers, notamment, ou du manque d'opportunités d'emploi.
Une chose encore, est-ce que du côté des autorités, on communique sur ce thème des réfugiés soudanais ?
Honnêtement, assez peu. Malgré plusieurs relances, je n'ai pas obtenu d'entretien avec les autorités. Seul le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, qui travaille en lien avec le ministère de l'immigration égyptien, a répondu favorablement à ma demande d'interview, en insistant, là encore, sur les besoins très importants en termes de financement d'aide humanitaire. Et puis sur les procédures pour obtenir un statut de demandeur d'asile, eh bien, ce sont les Soudanais eux-mêmes qui m'ont le plus éclairé à travers leurs récits et leurs histoires personnelles.
Merci Léonie Lebrun, correspondante de RFI au Caire. Je rappelle le titre de votre grand reportage, Soudanais réfugiés en Égypte, l'exil sans terre promise. Grand reportage, le supplément du dimanche. Merci de nous avoir accompagnés parmi ces Soudanais chassés par la guerre. Ludivine Amado, Alice Ménard, Tiffany Menta signent la réalisation. Dans un instant, le journal sur RFI.